IGA. J'aide, c'est IBL parce que...
Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
Toi, tu penses que la bande dessinée, c'est juste des petits bonhommes que tu lis aux toilettes?
Oui, c'est ça.
Mais c'est tellement plus que ça. Reste là, BD Filmant Vôtre commence dans 30 secondes.
Une bibliothèque, c'est nous rapporter. Sur le dos, j'entends car dans la tête, les artifices fleurissent, poussent à l'allure du chien dent. C'est comme ça qu'on glisse sur une effluve de printemps.
Samedi 9 janvier 2016, ici Mathieu Forget. Bienvenue à BD Filmant Vôtre, votre magazine culturel hebdomadaire sur la bande dessinée et la littérature jeunesse illustrée sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal. Ça fait très, très, très plaisir d'être là avec vous encore une fois pour une nouvelle année 2016. Ça fait bientôt 9 ans que je suis ici aux manettes de BD Filmant Vôtre. Ça va faire 9 ans en avril cette année et franchement, c'est un plaisir sans cesse renouvelé. Plaisir sans cesse renouvelé grâce à mes collaborateurs formidables, dont Ami Vaillancourt. Bonjour Ami.
Salut Mathieu.
Ami, tu es notre scénariste et lecteur boulimique en résidence et tu me fais plaisir parce que tu as trouvé un titre formidable, le fun à dire comme ça. Tu nous parles du retour de Nestor Burma avec l'album au titre, comme je le disais, formidable, Mic Mac Moche au Boulmiche. Je rappelle, c'est de Nicolas Barral chez Casterman. C'est d'après le roman de Léo Mallet et l'univers graphique, bien sûr, de Tardy.
Faut le dire rapidement, 10 fois de suite.
Vas-y.
Mic-mac-moche-boul-mich.
Et donc, c'est bon, cet album-là, c'est bon. Pourquoi tu vas nous en parler plus tard? Mais juste une petite 30 secondes. Là, pourquoi tu as décidé de nous parler de ça?
Mais parce que en fait, moi, je suis un fan fini de Tardy, grand maître s'il en est un. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ses adaptations qu'il a faites de Nestor Burma. Et malheureusement, mon intérêt a chuté lorsque Moineau a pris le relais. Et là, aujourd'hui, avec les deux dernières parutions, mais surtout Mic Mac Moche au Boulmiche, c'est le plaisir renouvelé qui revient et je me suis dit il faut en parler parce que cette série-là est revitalisée.
Donc c'est un bonheur de lecture et un bonheur en bouche également. Mic Mac Moche au Boulmiche. Ami Vaillancourt va nous parler de ça tout à l'heure. Il va tout nous dire là-dessus. Merci beaucoup, Ami. Ramon Vitesse aussi, notre militant du 9e art en résidence. On va le joindre sur la Rive-Sud par téléphone. C'est notre correspondant sur la Rive-Sud et il nous parle du Landais volant tome 4, Le Blanc qui parle tout seul de Dumonteil chez Futuropolis. Et en plus des chroniques, vous le savez, BD Filmant Vôtre vous présente des entrevues avec les acteurs importants du milieu, qu'ils soient auteurs, illustrateurs ou éditeurs. Et cette semaine, je suis très content, nous avons le plaisir de recevoir un auteur et illustrateur dont les personnages comme Michel Risque et Red Ketchup figurent au panthéon de la bande dessinée québécoise, et j'ai nommé Réal Godbout. Très content, première fois que je vais le recevoir ici à l'émission, très heureux. Après l'excellente adaptation de Kafka, L'Amérique ou le disparu, il faisait paraître en octobre dernier chez Mécanique Générale en collaboration avec sa fille Adèle l'album Avant l'Apocalypse, un récit très très original sous forme d'une série de tableaux mettant en scène des dinosaures humanisés qui voguent sans le savoir vers leur perte. Donc on lui parle de ça, de sa carrière, de plein de choses, aussi son emploi d'enseignant à l'EMI, l'École multidisciplinaire de l'image en Outaouais. Donc vers 12h30, on parle avec Réal Godbout. Et en toute fin d'émission, bien sûr, c'est notre libraire en résidence, Laurent Boutin, qui nous présentera les nouveautés qui se démarquent en librairie cette semaine.
Question de la semaine.
Si vous n'êtes pas familier avec l'univers sombre et mystérieux de la bande dessinée, vous n'avez peut-être pas vu toute l'activité autour d'Angoulême cette année. Et cette année à Angoulême, qui est le Festival de bande dessinée d'Angoulême, on a une belle grosse controverse sur le choix du Grand Prix de la ville d'Angoulême, un Grand Prix remis pour l'ensemble de la carrière d'un artiste, d'un auteur, illustrateur. Et donc, il y a eu 25 noms qui ont été proposés à la communauté d'auteurs qui peuvent voter pour ce Grand Prix-là. Et il n'y avait aucune femme qui y figurait. Ça a fait un tollé mondialement. On voit Camille vit sous une roche parce qu'il n'est pas au courant de ça, mais vraiment, ça a fait un gros, gros tollé sur les médias sociaux, même dans les réseaux français et tout ça, dans les journaux. Même ici, on en a parlé beaucoup dans les médias généralistes qui habituellement ignorent ou à peu près la bande dessinée. Mais bref, donc, pas de femmes. Et là, ça a fait un tollé. Évidemment, les gens d'Angoulême se sont virés de bord. Wow, wow, wow. OK, on va en rajouter. Et finalement, on n'en rajoutera pas. On va laisser libre choix. On annule la liste et on laisse libre cours au vote des gens. Parce qu'avant ça, dans les 25, il y en avait, je pense, une dizaine qui s'étaient désistées, dont Johan Sfar, Riyad Satouf et plein d'autres comme ça. Et Riyad Satouf avait écrit une longue lettre publiée dans les journaux. Et il a dit: moi, je pense que, au lieu de dire que c'est épouvantable qu'il n'y ait pas de femmes, on va en nommer des femmes. Il y en a nommé plusieurs et il a nommé, entre autres, mon choix pour la question de la semaine, que je vous dis tout de suite. Question de la semaine, Grand Prix de la ville d'Angoulême 2016, tout genre confondu. Pour qui voteriez-vous? Donc, répondez sur Facebook ou Twitter avec le mot clic question BV. Je reviens à Riyad Satouf qui nomme Julie Doucet.
Bravo.
Et c'est drôle, hein, parce que c'est tellement une évidence. J'ai lu ça, je me suis dit, ben oui. C'est une évidence. Pourquoi elle ne s'est jamais retrouvée sur d'autres listes comme ça? Fouillez-moi. Mais là, pas juste pour la force de ses récits qui sont très forts, l'originalité de sa voix d'artiste, et surtout, mais surtout, pour l'influence majeure qu'elle a encore sur des dizaines d'auteurs, et là, auteur E, mais auteur R aussi, RS, évidemment, publié aujourd'hui, publié dans les dernières années, donc une auteure extraordinaire. Moi, je lance un appel.
Ça fait combien de temps qu'elle roule, là, déjà? 20 ans?
Plus que ça, depuis les années 80.
C'est ça, oui.
Je lance un appel aux auteurs et professionnels de la bande dessinée. Vous qui pouvez voter. Vous voulez un vrai Grand Prix qui veut dire quelque chose? Votez pour Julie Doucet. Je sais que j'ai l'air d'un vil chauvin influençable, là, mais c'est vraiment mon choix. C'est une évidence. J'ai lu ça, puis après ça, j'ai plus été capable de penser à personne d'autre pour le prix. Ami, t'en penses quoi, toi?
Pour le prix accordé à l'auteur?
Grand prix de la ville d'Angoulême, tout genre confondu, pour qui tu voterais?
Écoute, tu sais, c'est l'ensemble de l'œuvre, là, donc il doit y avoir là, une couple d'années là, tu sais, derrière la cravate. Et puis, moi, aujourd'hui, tu sais, ce qui m'a le plus... la lecture qui m'a le plus... diverti puis pris cette année, mais c'est un auteur, tu sais, qui est tout jeune, tu sais, donc puis c'est une femme, mais elle a quoi, 3 ans, tu sais, qu'elle est sur la carte, donc c'est trop récent. Moi, ça aurait été Fiona Staples, mais sauf pas pour le Grand Prix, tu sais, c'est plus pour la série Saga. Donc, quant à moi, c'est une dessinatrice qui fait partie des plus grandes, là, présentement. Fait partie du top 10, là, certains. Donc, avec tout ce qu'elle a raflé comme prix, que ce soit au Harvey Awards ou au Willa Snow Awards. Autrement, Grand Prix, écoute...
Il y a les noms de... Je vais t'aider un petit peu. Il y a les noms de Larsenet, il y a les noms de Will Eisner. Stan Lee, qui sont là. Il y a Johan Sfar, il y a Riyad Satouf, que j'ai nommé tantôt, et plein d'autres. Je vous invite d'ailleurs... en fait, vous ne pouvez plus aller voir la liste parce qu'elle n'existe plus, mais il y avait plusieurs noms intéressants comme ça. Otomo, ça se peut-tu? Aussi, en tout cas, il y avait aussi des mangaka, il y avait des artistes de la bande dessinée américaine, mais... que des hommes sur cette liste-là.
Ben oui, hein, ça reste aussi quand même majoritairement un métier d'homme. Là, il y a de plus en plus de femmes qui font leur niche, là, puis tu sais, qui s'imposent. Mais le réflexe est là. Et puis, je pense que le cinéma n'est pas épargné non plus chez les réalisateurs.
Effectivement. Mais ami, je t'invite et j'invite nos auditeurs à aller voir et à aller s'informer. Si vous avez manqué le débat, là, allez sur notre page Facebook. On a relayé plusieurs articles comme ça qui vont vous éclairer là-dessus. C'est intéressant et je pense qu'il y a vraiment une place pour une discussion saine là-dessus.
Est-ce qu'un Chris Ware l'a jamais gagné? Non?
Je pense qu'il était là cette année.
Okay.
Effectivement, sur la liste. Donc, je vous repose la question. à vous à la maison. Grand Prix de la ville d'Angoulême 2016, tout genre confondu, pour qui voteriez-vous? Répondez sur Facebook ou Twitter avec le mot clic question BV. Maintenant, on s'en va en musique et au retour, on retrouve sur la rive sud notre correspondant Ramon Vitesse. C'était Paupières avec 5 heures sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal. Vous écoutez BD Film en Vôtre. Je vous parlais de Julie Doucet comme étant mon choix pour le Grand Prix d'Angoulême. Je vous invite à réécouter l'entrevue réalisée avec elle ici même à BD Film en Vôtre le 3 novembre 2013. C'est sur notre site bdfilmenvôtre.wordpress.com. Très, très, très intéressant de l'entendre parler de sa carrière, de son œuvre et de ce qu'elle fait maintenant. Mais maintenant, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va rejoindre tout de suite Ramon Vitesse, notre militant du 9e art en résidence et correspondant sur la Rive-Sud. Bonjour, Ramon.
Rien de moins, hey, merci. Salut, ça va?
Il y en a-tu des titres? Bonne année tout d'abord, Ramon. Et pour lancer la bonne année, tu y vas avec un album, un quatrième tome, donc tu prends pas de risque.
Oui, ben en même temps, c'est un risque parce que Nicolas Dumonteil, c'est une personne qui a pris des risques en partant début milieu 90 quand il s'est lancé dans BD, qui a lâché la publicité, qui était un gagne-pain très sûr, très solide pour lui. Il a pris le pari de se lancer dans un peu un brin de folie. Et le Landais volant, c'est un peu l'apothéose dans sa série d'albums. Bon, on sait qu'il a commencé en 93 avec l'Enclave chez Dargaud, mais l'événement dans sa carrière, ça a été en 95 avec Qui a tué l'idiot, qui justement, tu parlais d'Angoulême, qui a reçu l'Alpha. Et il avait reçu aussi le prix du Festival de Sierre 95 pour cet album.
L'Alpha qui est le prix du meilleur album pour une année donnée, c'est ça?
Exact, c'est ça. Puis, rien de moins que le prix René Goscinny, lui qui est un fan de Lucky Luke, d'Astérix, de Philémon, qui avoue avoir relu et relu ces albums-là et s'être baigné dans le western.
Wow.
Alors, Nicolas Dumonteil a passé par plusieurs albums chez Casterman, dont La Femme floue, dont Le Roi cassé, des albums absolument mémorables avec des personnages étranges qui mènent leur barque, vont envers et contre tous, même contre la mort parfois. C'est quand même pas rien. Notre Dumonteil a fait un détour par chez Futuropolis, où il est depuis 2007, donc il a fait 3 albums de Bigfoot, qui est un western, une adaptation extrêmement libre. En fait, il a dérivé complètement dans son propre monde. Alors, Le Landais volant, il a commencé ça dès 2009. On est au 4e et dernier album, avec des couleurs absolument somptueuses, ensoleillées de Isabelle Merlet, qui est définitivement une collaboratrice de premier plan pour lui. Dumonteil, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis allé chercher 2 citations d'entrevue de lui que je trouve qui sont assez révélatrices. Les voici. En général, je travaille en espérant que ça va être drôle et que ça va faire marrer mes lecteurs. Donc, on entre de plein pied dans l'humour, mais pas n'importe quelle sorte d'humour. Un humour dans lequel va se retrouver l'émotion, le sentiment. Donc, on va passer d'un à l'autre et c'est des leviers, c'est des catapultes entre les deux pour des histoires qui sont jubilatoires, qui sont forcenées, parfois même haletantes. Dumonteil nous dit aussi ceci. J'aime bien animer des petites communautés peuplées de personnages stupides qui provoquent des situations absurdes. Eh bien voilà, on y est. On est dans le personnage de Jean Dextre, en fait pour le nommer de son nom complet, le baron chevalier Jean Dextre, Pandore de Cadillac.
Wow, c'est lourd à porter, ça.
Quand même, il faut voir la petite boule qu'est le personnage de Jean Dex avec un méchant gros nez. On peut le rapprocher de Achille Talon, mais encore plus halluciné. Parce que sa vie intérieure et son sexe perdu, oui, oui, il y a du sexe là-dedans, mais il est disparu, à la recherche du sexe perdu de Jean Dex, si on peut dire. Mais là, son sexe est perdu, on passe à autre chose. Et c'est tant mieux. Personnellement, je trouvais qu'avec le 3e album, il fallait passer à autre chose. Et voici, c'est fait. On s'en va au Sénégal, cette fois, pour à peu près les 2/3 de l'album. Parce qu'il y a une rallonge, il y a un bonus à cet album-là qui nous amène au Québec, mais on y revient dans un instant. Donc, le trait de Nicolas Dumonteil est extrêmement jubilatoire. C'est au pinceau, c'est un trait qui a peut-être déparenté, faut le dire relativement vite, avec Joanne Demour ou encore Stassen pour un gros trait épais, mais vigoureux. Ici, ce qui s'attaque dans ce livre-là, Le Landais volant, c'est, après avoir travaillé sur l'album La Colonne en 2 tomes avec Christophe Dabiche, il s'est attaqué au colonialisme. Et le voici maintenant avec son pendant moderne qui est l'aide humanitaire. Alors là, il part avec une trolle de jeunes qui vont faire un projet humanitaire là-bas. Et ce qui est intéressant, Dumonteil s'inspire notamment de ses propres voyages, mais aussi d'un de ses amis d'atelier, Pandanx, qui nous avait fait le fameux livre là, sur l'endroit perdu, le Tombouctou, en Afrique.
Oui.
Alors, c'est ça. Là, on a la quintessence de l'Afrique, qui est un peu, en fait, un miroir aussi du monde occidental et de ses différents malentendus, de sa langue de bois, des notables, des politiciens, des policiers qu'il faut arroser et toutes ces à-côtés-là, finalement, qui viennent que compliquer et être ce que les Anglais appellent disturbance, je ne sais pas, c'est une espèce de dissonance peut-être,
ouais.
On pourrait dire en français.
Effectivement, dissonance de discours. Ouais.
Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, Dumonteil. Et cet album-là, il parvient avec une capacité, dans le fond, absolument phénoménale. En quelque part, ce que nous montre Dumonteil, c'est des Blancs qui prennent une longue vue pour regarder l'Africain, mais qui utilisent la longue vue à l'envers. Donc, il est question d'étroitesse d'analyse et d'une espèce de métaphore, dans le fond. C'est vraiment un album que je considère phénoménal. Pour donner une idée à cet aspect de longue vue, au début, d'entrée de jeu, les Blancs qui arrivaient voyaient les feux dans les cases, au milieu de la case, et ça générait, selon eux, une espèce de fumée malsaine. Donc, ils ont décidé d'apporter leur aide, de l'argent, pour la construction de cheminées. L'année suivante, à leur grande consternation, quand ils reviennent, ils s'aperçoivent que la mortalité infantile a grimpé de façon catastrophique et que le paludisme est revenu de façon galopante. Pourquoi? Tout simplement, la fumée, dans la case chassait les moustiques. Donc, une espèce de contre-productivisme avec des idées fumeuses et une espèce d'outrecuidance à penser toujours détenir la vérité et les solutions pour les bons petits noirs.
Mais c'est intéressant, ça. Donc, c'est rempli de symboles, cet album-là.
Tout à fait. Mais il est question donc de faux espoirs. On voit les gens qui font la file pour proposer des projets. on se croirait à Sodec ou à d'autres places comme ça. Et c'est assez jubilatoire. En fait, Dumonteuil, c'est ça. Je le disais tantôt avec ces citations, la question de l'humour, de l'émotion, parce que notre Jean Dex a des espèces de visions et il y a sa grand-mère qui se promène comme un fantôme à travers l'album. Bref, on a un album assez fantaisiste. Le pire là-dedans, il s'est fait des amis au Québec et quand il est venu, bon, il a rencontré des amis comme Francis Desharnais, JF, Philippe Girard, Thomas Louis Côté du Festival de BD de Québec, Michel Falardeau, et il espère bien qu'ils ne le renieront pas après avoir lu l'épisode qui clôt l'album finalement, qui est un peu une rallonge et qui nous amène entre le Sénégal, le Québec et la Garonne, d'où est issu le personnage.
Donc, on va découvrir ça en lisant Le Landais volant, tome 4, Le Blanc qui parle tout seul de Dumonteuil, chez Futuropolis. Ça a l'air super bon, Amon. J'ai vraiment hâte de lire ça. Tu m'as donné le goût. Je suis vendu.
Bon, ben, on fonce.
Parfait. On s'en reparle bientôt. Merci beaucoup, Amon.
Au plaisir.
Bye-bye.
Tu penses que la bande dessinée, ça s'écrit sur le coin d'une table? Ça peut, mais ça prend une grosse table. Écoute la chronique Lecture de la semaine avec notre scénariste en résidence, Ami Vaillancourt.
Ami, rebonjour.
Salut Mathieu.
Lançons-nous dans Nestor Burma et là je te laisse le plaisir de dire le titre de l'album.
Micmac Moche au Boulmich.
Ah, c'est formidable.
Quel titre fabuleux.
De Nicolas Barral, donc c'est son deuxième album de Nestor Burma,
Oui, après Boulevard Ossement. Donc toujours avec, d'après l'univers graphique de Tardy, naturellement. En fait, je méconnais l'aura de Nestor Burma et de l'œuvre de Léo Mallet en Europe. Mais ici, dans ma subjectivité, comment je l'aperçois, c'est que Nestor Burma est devenu avant tout un personnage de bande dessinée. Comme si l'œuvre de Tardy était tellement forte qu'elle avait pris le pas sur celle de Mallet. Je sais pas, tu sais, si ce que tu peux en penser, Mathieu, de ça, mais moi, il me semble que ça fait un peu de sens, même si je sais qu'il y a eu des adaptations cinématographiques avec Michel Serrault et feu Michel Galabru.
Effectivement, je pense que oui, effectivement, ici, le personnage dessiné a dépassé le personnage de papier. Je suis pas mal certain de ça aussi.
Ben oui, moi, c'est mon sentiment. Et puis donc, pour en arriver là, il faut que l'œuvre soit extrêmement forte. En 4 tomes, tu sais, pas supplanter, mais quand même dans les esprits, une œuvre de plusieurs dizaines d'albums de l'auteur original, c'est pas rien. Donc, on n'a qu'à penser à l'immense 120 rue de la Gare pour s'en convaincre. Donc, Moi, j'ai vécu des lectures jubilatoires en lisant les Nestor Burma de Jacques Tardy. J'ai commencé même pour comprendre le métier, tu sais, de scénariste et d'auteur de bande dessinée en faisant le découpage technique de 120 rue de la Gare. Donc, pour comprendre là, comment il a fait ça, comment il a construit ça, parce que c'est tout de suite, on le sait en le lisant, c'est une œuvre majeure. Donc, Tardy, avec ses intérêts divers, à un moment donné, a laissé le relais, en fait, à Moineau. Et, bon, à sa défense, ça doit pas être facile de chausser des souliers pareils. J'imagine que Fournier a dû vivre des moments d'insomnie après avoir suivi Franquin. C'est une position qui doit être pénible.
C'est les gros souliers à remplir, effectivement.
Ben là, c'est peu dire. Donc, on a beau demander à l'auteur, tu sais, de s'approprier, tu sais, une œuvre et d'en faire quelque chose de personnel, tout en lui demandant de conserver, tu sais, l'univers graphique, donc le trait de crayon, être le plus sensible possible à celui de Tardy, les bâtiments qui sont omniprésents également, les formes des bulles, c'est cela. Moineau a été incapable de faire une adaptation de l'œuvre graphique en conservant la grammaire. Oui.
Et là, il te reste environ 4 minutes pour nous expliquer comment Nicolas Barral a réussi, lui, où Moineau a échoué.
Je vais tenter de faire ça le plus concis possible, Mathieu. Quand je démarre, j'ai de la difficulté. Donc,
mais c'est si intéressant. Ben non, vas-y.
Écoute, Barral, lui, a fait en premier lieu une adaptation de l'œuvre de Tardy avant celle de Léo Malet. Si disons, on regarde 120 rue de la Gare, à un certain moment, Burma glane de l'information en montrant une photo case à case à des personnages différents. Et à un certain moment, il montre la photo à Léo Malet qui est pas dans son plus beau jour à ce moment-là. Donc, c'est un clin d'œil que Tardy faisait à l'auteur. Et aujourd'hui, dans Micmac Moche au Boulmiche, il y a une scène où Burma est dans un bistrot. Il est un peu poivreau, le personnage, donc il aime bien picoler. Et en arrière-plan, on sent qu'en fait, c'est ce personnage-là qui est important dans la case. C'est Tardy qui est illustré par Barral. Donc, on sent à ce moment-là que l'auteur auquel on rend hommage ici, c'est pas Léo Malet, c'est Jacques Tardy. Donc, Barral, lui, a réussi là où, à mon sens, Moineau s'est planté. Je suis désolé, le terme est peut-être un peu fort, planté, mais bref.
Mais moi, ce que je sens là-dedans, c'est que Moineau a peut-être voulu réinventer quelque chose, tandis que Barral a voulu vraiment continuer ce que Tardy
avait
fait.
Il a été incapable de ne pas se mettre de l'avant. Donc, Barral, lui, son choix de caméra, là où il pose sa caméra, son découpage technique, le trait de crayon, les personnages, le casting des personnages, c'est très tardien. T'sais, je veux dire, c'est à s'y méprendre. On sent que c'est pas Tardy, naturellement, mais on y croit, là. T'sais, je veux dire, tout ce qui était des règles que Tardy avait amenées à son univers, Barral les a appliquées, tu sais, en s'effaçant pour faire toute la place à Nestor Burma et à ce qu'on a aimé dans l'œuvre de Tardy. Donc, déjà avec Boulevard Haussmann, il y avait quelque chose de bien, tu sais, son noir et blanc était super réussi. Mais vraiment, Micmac Moche au Boulmiche, j'adore ce titre-là.
C'est un titre formidable.
Formidable, hein? Ben,
ça va devenir mon nouveau virelangue, je pense, dans l'auto avant d'arriver à l'émission. Micmac Moche au Boulmiche, Micmac Moche au Boulmiche.
Donc, la lecture est vraiment jouissive. Pour parler du récit, parce qu'il le faut bien, c'est un jeune homme qui, on nous dit qu'il s'est suicidé dans une bagnole, jeune homme de 20 ans, mais voilà, il est étudiant en médecine, son père est lui-même médecin, donc le jeune homme Paul Leverrier, son père le docteur Leverrier, et son amante, sa blonde on va dire, Jacqueline, elle se présente au bureau de Fiat Lux, agence agence de Nestor Burma, et elle lui dit non, c'est impossible de se suicider, on s'aimait trop pour ça, et donc ici, mais vous ne comprenez donc pas, monsieur, nous nous aimions, vous ignorez peut-être ce que cela signifie, foutre non, mais passons. Donc c'est Burma avec sa répartie assassine et son cynisme débordant nous revient encore, pipe au bec, et donc il va fouiner là avec la conviction que Paul s'est suicidé, mais va sortir des squelettes de plusieurs placards et il y a un livre au cœur du dénouement de l'intrigue qui n'est ni plus ni moins que Les fleurs du mal de Baudelaire. Donc, ça se passe dans le 5e arrondissement. Les décors sont omniprésents. La caméra est merveilleuse. La couleur, faut le dire, c'est en couleur. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est peut-être le seul endroit où vraiment Barral a mis un peu de lui. Et puis, c'est tout à fait réussi. Donc, en fait, là, si vous voulez prendre votre pied, vous divertir à mort. Allez lire Mick McMush au Boulmiche, des histoires d'amour qui finissent mal. Et en parlant de fin, on termine avec une pleine page de Burma qui marche dans la rue. La pleine page qui, quant à moi, est tout le temps mal employée en bande dessinée. Il n'y a que Baru qui arrive à faire quelque chose de vraiment chouette.
Et là, ça marche?
Pardon. Ah, là, ça marche. Écoute, ça clôt merveilleusement bien le récit.
Et
le
ça
texte
clôt.
Est fort.
Et ça clôt aussi ta chronique. Merci beaucoup.
D'accord.
Annie Vaillancourt.
Je me tais.
À bientôt.
Allez.
Gourmand et gastronome, devenez juré pour la 7e édition de la soirée découverte Chef et fromage d'ici. 4 candidats de la populaire émission Les Chefs rivaliseront d'audace pour faire chavirer vos papilles et remporter les honneurs. Faites vite, il reste encore quelques places. Le samedi 20 février dans le grand salon du Fairmont, le Reine-Élisabeth. Billets au montréalenlumière.com. Le Montréal en Lumière est présenté par RBC en collaboration avec Bell, en association avec La Presse Plus et CIBL.
À l'affiche cette semaine au cinéma du Parc.
En nouveauté, Ingrid Bergman In Her Own Words avec sous-titres en anglais. Toujours à l'affiche, voyez The Hateful Eight, Youth, Hitchcock Truffaut et Macbeth. Tous ces films sont présentés avec sous-titres en français.
Le cinéma du Parc, un cinéma alternatif riche en diversité, à deux pas du quartier des spectacles, en plein cœur de Montréal. Stationnement 2$ pour 3 heures. Bon cinéma!
Vous voulez découvrir les artistes qui font bouillonner la musique, le théâtre, les arts visuels, la littérature, le cinéma et tous les autres domaines artistiques à Montréal? Écoutez Catherine et Laurent.
Lundi, on reçoit Richard Brouillette, réalisateur du documentaire Oncle Bernard, l'anti-leçon d'économie, la commissaire déléguée Florence Agathe Dubé-Moreau de l'exposition Do It Montréal et l'essai Le quartier des spectacles et le chantier de l'imaginaire montréalais.
Ici Anne-Marie Kerouac, Catherine et Laurent, c'est un rendez-vous culturel à CIBL du lundi au vendredi de 16h à 18h.
Look, let me tell you something. He said the next time somebody calls you a nigger, just kick their ass. Don't ask no questions, just kick their ass.
Cabaret Diaspora, c'est le jukebox de l'Afrique urbaine. Cabaret Diaspora, c'est l'Amérique qui entend d'où elle vient. Cabaret Diaspora, c'est la rencontre entre James Brown, Mohamed Ali et Lil Wayne. Mon nom est Jean-Baptiste Hervé et je vous invite tous les lundis soirs dès 19h.
Que vous soyez nouveaux adeptes ou amateurs avertis de reggae, l'émission Basse Fréquence demeure votre référence hebdomadaire depuis 1990. Tous les samedis de 19 à 21h, Basse Fréquence débarque avec son arsenal de musique jamaïcaine. Ska, rocksteady, roots, dub et surtout dancehall. L'équipe reçoit les artistes et DJ jamaïcains locaux et internationaux pour des entrevues et prestations exclusives, le tout accompagné de nouvelles artistiques et de rubriques variées. Basse Fréquence, tous les samedis de 19 à 21h avec Richard Lafrance et le DJ Masqué. Toujours à l'antenne de CIBL 101.5 FM à Montréal.
La deuxième heure de BD Film en Vôtre commence maintenant, deuxième demi-heure, et où je me sens en verve aujourd'hui. Deuxième demi-heure de BD Film en Vôtre commence à l'instant, tout de suite, maintenant.
« l'invité de la semaine.
Comme je le disais en introduction d'émission, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un auteur et illustrateur dont les personnages, comme Michel Risque et Red Ketchup, figurent au panthéon de la bande dessinée québécoise. Réal Godbout, bonjour.
Bonjour.
C'est très, très content de t'avoir ici en studio avec nous. C'est la première fois en 9 ans d'existence pour l'émission. Je suis très heureux. Après l'excellente adaptation de Kafka, L'Amérique ou le disparu, paru en 2013 à la Pastèque, tu as fait paraître en octobre dernier chez Mécanique Générale, en collaboration avec ta fille.
Oui.
Ta fille Adèle, l'album Avant l'Apocalypse. C'est un récit très original, sous forme d'une série de tableaux mettant en scène des dinosaures humanisés qui voguent sans le savoir vers leur perte. Comment est né le projet?
Bien, c'est une vieille idée. C'est né d'une illustration que j'avais faite il y a plusieurs années. J'avais gardé ça dans mes tiroirs. Donc, l'idée, c'était d'avoir créé un univers vaguement victorien, autour de 1900, mais avec des dinosaures anthropomorphiques. Parce que j'ai toujours eu le goût de faire de la bande dessinée anthropomorphique. C'est un genre qui m'a toujours attiré. Donc, j'avais fait une couple d'illustrations que j'avais gardées en réserve, puis en me disant un jour, je vais essayer de faire un album de BD avec ça. Puis, à un moment donné, l'idée s'est développée. C'est devenu pas exactement un album de BD, c'est plus un album de textes et illustrations, donc c'est des grands tableaux.
Oui.
Et puis, donc cet univers-là étant déjà en place, j'ai commencé à écrire des textes. Donc c'est toujours la formule, c'est une pleine page avec un bloc de texte en dessous. J'ai commencé à écrire quelques textes, puis en cours de route, j'ai demandé à ma fille, parce que je trouvais que j'aimais la façon dont elle écrivait. Puis ensuite, parce que le personnage, donc ma fille Adèle, le personnage, c'est la narratrice, en fait, de l'album. C'est une jeune dinosaure qui observe le monde. Puis donc, ma fille étant pas exactement une jeune dinosaure, mais quand même un peu plus proche. Parce que moi, personnellement, mon côté petite fille, bien, je l'ai peut-être gardé un peu, mais il était un peu loin. Donc, elle-même, qui avait 17 ans à l'époque, était bien placé pour saisir un peu la sensibilité de l'écriture. Puis je trouvais ça le fun de travailler avec la famille aussi. Je trouve ça intéressant. Donc, on s'est partagé les textes de l'album et puis ça a donné ça.
Et travailler avec ta fille, est-ce que ça a fait sortir d'autres choses dans ton travail? Est-ce que tu sens que ça t'a influencé d'une certaine manière?
Influencé, c'est pas exactement comme si je faisais une BD. Donc, on travaillait de façon quand même assez... en interaction, sûrement, mais pas comme si on faisait un scénario de BD. Donc, je disais, apporte-moi des bonnes idées, je vais les faire. C'est-à-dire qu'elle me suggérait des idées. Généralement, j'y prenais... Parfois, on discutait un peu d'un sujet. On disait, bon, ben là, tu peux aller dans telle direction. Des fois, elle m'arrivait avec une idée complètement de son cru. Puis, généralement, je prenais ces idées. Des fois, je faisais des petites retouches au texte, mais... Mais c'est sûr, en soi, cette façon-là de travailler était différente aussi de la façon habituelle qui est mon genre habituel, évidemment, mon médium habituel, c'est la bande dessinée. Ça, c'est de l'illustration, mais en même temps, c'est pas de l'illustration de commande. C'est du travail d'auteur en illustration c'est un peu particulier pour moi.
Moi, ça vient, c'est pour la première fois, dans le fond?
Dans le fond, oui, parce que de l'illustration, j'en ai fait beaucoup. Dans des magazines pour la publicité, du livre scolaire, etc., etc. Ça peut être très intéressant, des fois, comme défi de faire de l'illustration, mais du travail d'auteur comme tel en illustration, effectivement, c'est la première fois. Puis ça me permet de m'éclater un peu plus en dessin, puis d'aller au bout un peu des possibilités du dessin. Parce qu'en bande dessinée, c'est le fun, tu dessines, mais à un moment donné, tu t'éclates pas à chaque case, là. Alors que là, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas pour...
Mais on reconnaît ton amour du détail. C'est un dessin qui est foisonnant. Il y a plein de choses là-dedans. À chaque page, on remarque ça. Mais on sent aussi un commentaire social très, très fort à la lecture de cet album-là. Est-ce que les humains, comme les dinosaures dans l'album, courent aveuglément à leur perte?
Bien, j'ai pas voulu, mais je suis pas exactement le genre théorie du complot, on fonce vers la fin du monde, puis tout ça. Je voulais pas rentrer dans le propos alarmiste, mais c'est sûr que des fois, on se demande où va le monde, d'où il y a une espèce d'analogie avec les dinosaures qui vivent dans une société où tout semble marcher, aller de soi. puis qui s'en vont vers, ils sont sur le bord de la catastrophe. La catastrophe qu'on voit pas arriver comme telle dans le livre, mais qui est suggérée.
Mais qu'on
pressent, oui. On voit la météorite à la fin du livre. Là, j'ai vendu le punch. Mais on voit la météorite, donc, à la fin, qui annonce ce qui est pour les dinosaures la fin du monde. Mais il y a toujours, évidemment, l'analogie avec notre monde, mais en même temps, un peu décalé, parce que c'est pas 2015, c'est plus 1900, mais en tout cas, on sent un peu la modernité.
Mais c'est pas innocent, ça. On sentait justement là-dedans que vous avez voulu placer vraiment cette histoire-là au moment d'une certaine révolution industrielle, une certaine société du spectacle qui arrivait, société du loisir. Et on sent une critique de ça très forte dans l'album.
Oui, effectivement. Puis ça vient autant de moi que d'Adèle aussi, qui a un point de vue qui est très, très humaniste, qui réfléchit beaucoup à ces questions-là. Je sais que ça vient un peu des deux.
Mais on sentait ça aussi dans Red Ketchup ou même dans Michel Risk, mais ça passait par l'humour. Aujourd'hui, c'est moins par l'humour, donc c'est plus direct. Il y avait ça aussi dans L'Amérique ou le disparu, qui est un commentaire de Kafka assez fort.
Je pense que toujours, oui, effectivement. Ben, d'ailleurs, L'Amérique ou le disparu, ça se passe aussi au début du 20e mm-hmm. siècle, donc il y a une centaine d'années. Puis pour l'humour, bien évidemment, c'est moins bouffon, c'est moins grotesque que Michel Risk ou Red Ketchup, mais je pense que même à l'Amérique, même dans Kafka, même dans cet album-là aussi, il y a une espèce de touche d'humour absurde, une espèce de décalage aussi. On joue avec les époques.
Oui. Est-ce que l'art va avec la revendication pour toi? Est-ce que ton métier est intrinsèquement lié à ça? Ou en tout cas, la recherche d'idées.
Oui, mais je pense qu'il faut avoir quelque chose à dire. Commentaire social, sûrement. Revendication, c'est... Je ne sais pas si on peut dire ça. Ce n'est pas mon tempérament d'être revendicateur.
Le terme est fort un peu, mais effectivement, juste émettre des opinions par la fiction.
Oui, mais je pense que... Il me semble que ça va de soi. Là. Je veux dire, dans n'importe quel... Il y en a toujours un peu, là, même dans les histoires les plus innocentes, là... Il y a toujours un point de vue là, qui passe, c'est sûr.
Oui, mais pas pour tout le monde. C'est ça que je trouve intéressant de voir ça se développer, parce que quand on pense à Michel Risk ou à Red Ketchup, on pense à l'humour, tout de suite on passe aux choses absurdes, mais le fond est là, il y a vraiment un fond de commentaire social.
Oui, bien, il faut dire aussi, Michel Risk et Red Ketchup, ça paraissait dans le magazine Gros.
Oui.
Qui était magazine d'humour, de satire, puis de commentaire social, tout ça, fait que ça allait naturellement... ça rentrait naturellement dans ce cadre-là.
Tu as commencé à faire de la bande dessinée il y a quand même longtemps, dans les années 70,
ouais.
Justement avec Michel Risk. Tu as été dans les belles années de Crow et tout ça. Qu'est-ce qui te manque de cette époque-là?
Ce qui me manque... Ben, à la belle époque de Crow, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que j'avais l'occasion de publier une série à long terme en feuilleton dans un magazine. Donc... je faisais mes pages à mesure et puis ça sortait à chaque mois. J'avais des réactions à chaque mois. J'étais payé à chaque mois pour le faire aussi. Ça ne faisait pas une fortune, mais quand même. Bon, c'était comme un métier à plein temps. Aujourd'hui, je fais toutes sortes de choses, dont l'enseignement de la bande dessinée, etc., etc. Mais j'aimerais pouvoir dire encore que je suis un auteur de bande dessinée à plein temps, ce qui n'est pas nécessairement possible. Je consacre beaucoup d'heures encore à ça, puis ça reste quand même... La bande dessinée reste quand même pas mal au centre de ma vie, mais j'ai plus vraiment le statut d'auteur de BD à plein temps, autant que je le souhaiterais.
Je trouve ça intéressant que tu amènes ça, parce que, bon, Michel Risk et Red Ketchup sont réédités à la Pastèque depuis plusieurs années. Tu as été élu au Temple de la renommée de la bande dessinée canadienne en 2009. On peut presque penser qu'on t'a donné tous les honneurs et que tu serais en fin de carrière, mais c'est pas ça du tout.
Bien, en fin de carrière, parce que c'est le fun, là, d'être, par exemple, les rééditions... De voir que ces albums-là ont une nouvelle vie, puis ça continue à circuler. C'est le fun, mais en même temps, je me dis, bon, ben là, c'est ça, c'est le patrimoine, mais je veux dire, moi, personnellement, je voudrais être actif là-dedans le plus longtemps possible. J'ai encore des... C'est encore ça qui m'intéresse, puis ce qui est le plus important pour moi, malgré tout ce qu'on a pu dire, puis malgré le succès peuvent encore avoir les anciens albums. Le plus important pour moi, c'est ce que je fais présentement ou ce qui vient de sortir. Là, c'est le vieux cliché là, de l'auteur qui dit son livre préféré, c'est le dernier qui vient de sortir.
Oui, oui, oui.
Mais c'est quand même un peu vrai, c'est sûr. Puis là, ben, je remonte un peu à mes anciennes amours aussi parce que je suis censé terminé l'histoire de Red Ketchup, qui avait été interrompue à la fin de Crow il y a 20 ans.
Oh!
Là, je m'y suis mis, mais ça avance pas vite, mais c'est prévu. C'est qu'il restait il y avait la moitié de l'album à compléter. Donc, c'est le prochain projet qui est devant moi. Après ça, je sais pas, j'ai quelques idées, mais c'est...
Mais c'est intéressant, ça, le Réal Godbout d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a les mêmes idées? Est-ce qu'il sent la même drive que celui de la fin de Crow, justement, pour se remettre dans ces souliers-là puis reprendre l'histoire?
Oui, bien, premièrement, c'est de le scénario se faisait à deux, donc avec Pierre Fournier. Mm-hmm. Puis les quelques fois qu'on a eu l'occasion depuis le temps de travailler ensemble, la même dynamique fonctionne. Donc, les idées... Je suis peut-être un peu plus... est-ce que je dirais pas assez agi, mais... si je regarde, par exemple, à certaines époques, des outrances qu'il y avait dans Red Ketchup, mm-hmm. il y a des choses que je ferais peut-être plus aujourd'hui. Je suis peut-être plus politically correct que je l'étais dans le temps.
Pourquoi?
Parce que... Ben, en fait, non, j'ai toujours été... Ça paraît pas, parce que c'était à mode de dire « Ah, oh, moi, je suis politically incorrect. » Moi, j'ai toujours été très politically correct. Même si le Red Ketchup est l'antithèse de la rectitude politique,
oui.
Là, il y a un point de vue critique qui passe par le deuxième degré, par la satire, mais je pense que le propos est toujours un petit peu le même. Puis là, bien évidemment, le monde change. Là, cette histoire-là se passe dans les années 90, parce que c'était contemporain à cette époque-là. Mm-hmm. Là, il faut au moins terminer cette histoire-là, donc on retourne 20 ans en arrière, dans un monde qui est un petit peu semblable à notre monde d'aujourd'hui, mais pas tout à fait. Il y a quand même des choses... Il y a des thèmes communs, mais le monde a changé, c'est sûr. Mais l'histoire, elle, elle continue.
Tu enseignes depuis 1999 la bande dessinée à l'École multidisciplinaire de l'image de l'Université du Québec en Outaouais. C'est quoi ta vision de la relève en bande dessinée? Tu la côtoies toutes les semaines?
Oui. La relève, premièrement, évidemment, parmi les étudiants, c'est pas tous ceux-là qui vont faire partie de la relève, mais non. Ça, c'est normal. Mais il y en a déjà plusieurs auteurs connus qui sont passés par l'EMI, par le programme de BD. Mm-hmm.
Jean-Sébastien Bérubé, entre autres, Iris et d'autres.
Stéphanie Leduc.
Oui.
Coupe d'autres.
Bon. Oui.
Puis il y en a que je vois progresser. Puis j'ai beaucoup... J'ai hâte de les voir publiés, puis j'ai hâte de les voir qui soient connus. Puis il y a des gens là-dedans qui promettent beaucoup. Je pense que c'est Jean-Marc aussi. Mais il y a plus de filles qu'avant. Mais ça, si je pense que c'est le milieu de la BD en général. On en parle pas mal ces temps-ci. Mais à l'université en particulier, c'est frappant. Même que mes groupes d'étudiants... au début, c'était quasiment juste des gars, une couple de filles. Là, il y a une majorité de filles.
Ah oui?
Clairement, une majorité. Là. C'est peut-être trois filles pour un gars. Ça peut varier, là, mais est-ce que ça va donner à ce moment-là, dans quelques années, est-ce que la relève est plus féminine?
Est-ce que vous pensez que c'est l'émergence de la bande dessinée dite « girly » qui...
Pas nécessairement. « Girly », c'est un genre très particulier. Par exemple, parmi mes étudiantes, il n'y en a pas beaucoup qui font de la bande dessinée girly. J'ai rien contre, là, mais je veux dire, c'est pas un genre qui me touche tellement.
Ouais.
Mais girly, c'est comme la bande dessinée qui serait faite spécifiquement pour les filles avec des thèmes de. Avec des chats, puis des souliers, puis du magasinage. Puis...
Ouais. Il y en a.
Il y en a, puis c'est correct.
Oui.
Moi, ça me touche pas beaucoup, mais je dis c'est correct. Je pense que la bande dessinée faite par des filles, c'est évidemment beaucoup plus large que ça.
Puis vos activités comme professionnelles, comme professeur, le suivi que vous devez faire avec vos étudiants, est-ce que ça amène une lenteur à votre travail d'auteur?
Bien, évidemment, premièrement, ça dépend des sessions aussi, parce que des fois, j'ai plusieurs cours, des fois, j'en ai moins. C'est sûr, il y a des sessions où je suis très occupé. Je veux dire, dans le fond, j'ai le même problème que n'importe quel auteur qui a une job...
On the side.
Bon, fait que c'est sûr que ça prend une partie de mon temps.
J'avais comme entendu dire que l'Amérique avait pris 8 ans.
7 ans, mettons. En réalité, si j'avais fait ça à temps plein, ça m'aurait peut-être pris 3 ans, 3 ou 4 ans, peut-être.
C'est ça.
Et si on regarde avant l'apocalypse, ça a pris pas mal plus que ça.
si je remonte à l'idée originale, c'est 30 ans. Mais disons, de production, c'est peut-être, on peut dire, j'avais déjà quelques éléments en place, mais de production, c'est peut-être sur un an ou deux. Là.
OK. Ça a été
c'est quand même... C'est moins volumineux comme album, évidemment, aussi, mais... Mais quand j'ai le temps, à certaines périodes de l'année, je peux m'y consacrer à plein temps, mais c'est sûr que c'est pas 12 mois par année.
À part le projet de reprendre la dernière aventure de Red Ketchup, est-ce qu'il y a un projet original qui occupe ton temps en ce moment?
En ce moment, là j'ai fini ma session à l'université il n'y a pas longtemps. Donc, comme je disais tantôt, la prochaine chose en chantier, c'est le finir le Red Ketchup. Mm-hmm. Après, j'ai des idées qui me tournent dans la tête. Ça peut être faire la suite de ce qui a déjà été fait comme des séries ou une idée complètement nouvelle. Je ne le sais pas. En tout cas, je joue avec certaines idées, puis à un moment donné, il y a une qui va faire surface.
Le tableau est ouvert. Le tableau est vierge.
Ouais.
Ben, c'est le fun, ça. On a très hâte de découvrir ça. En attendant, en librairie, depuis octobre, avant l'apocalypse, c'est écrit avec ta fille Adèle Bourget-Godbout chez Mécanique Générale, sorti en octobre, comme je le disais. Et il y a l'Amérique ou le disparu, il y a les Michel Risque à la pastèque, il y a les Red Ketchup. Bref, si on veut découvrir Réal Godbout, il y a moyen. Merci beaucoup, Réal.
Merci.
Colonnes de fumée filtraient quelques lueurs. Au loin, les pyramides, même si ce n'était pas l'Égypte. J'avais le regard humide de ceux dont les cris, perdus sur un île, n'atteignent au fond que les cryptes. Au loin les pyramides, le cours de mer tranquille. Au loin les pyramides, le cours de mer tranquille. Des colonnes de fumée filtraient quelques lueurs. Nous n'avions plus qu'à retrouver dans les cendres la somme de nos reliques, un sens aux hiéroglyphes. Mais toujours, 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 au loin les pyramides, le cours de mer tranquille. Au loin les pyramides, le cours de mer tranquille. Aujourd'hui encore, nos balances qui passent savent nous montrer la voie de nos luttes.
Que les libraires, ça sert à rien. C'est méchant et c'est même pas vrai. Certains peuvent être très drôles. Écoute notre libraire en résidence, Laurent Boutin.
Laurent Boutin, bonne année.
Bonne année, Mathieu.
C'est un plaisir de te reparler ici à BD Film en Vôtre, Laurent, notre libraire à nous et mon préféré. C'est formidable. Laurent, as-tu passé des belles fêtes et as-tu fait des belles lectures?
Oui, écoute, j'ai passé un beau temps des fêtes. J'ai beaucoup mangé, évidemment.
Ben oui.
C'est dans ça le bilan, n'est-ce pas?
Faut bien entretenir ça, cette bédaine-là, Laurent.
Ben oui, voilà, cette expansion ne se fera pas toute seule.
Et as-tu trois belles nouveautés pour nous, là, pour faire brûler ce gras-là?
Ben oui, écoute, mystérieusement, on est qu'au début de janvier, mais il y a plein de trucs qui étaient parus en Europe juste à temps pour les fêtes que nous, on n'avait pas reçus, donc on a une super belle semaine déjà.
Yeah, c'est un
donc,
deuxième Noël.
Ben oui, franchement, si jamais vous êtes encore en vacances, là, si vous êtes au cégep ou quoi que ce soit, c'est pas commencé déjà. Fait que vous avez amplement le temps de venir lire ces belles nouveautés-là. La première, c'est un truc qui s'appelle « Les intrus » aux éditions Cornelius. C'est la traduction d'un livre qui s'appelait « Killing and Dying » de Adrienne Tominé, qui est paru l'automne passé chez Drun & Quarterly. Donc, Adrienne Tominé, qui est un des auteurs piliers de Drun & Quarterly, justement. Moi, j'ai beaucoup aimé la plupart de ses livres.
Là. Moi aussi.
C'est vraiment un auteur très, très doué, très touchant. Ses livres racontent tout le temps juste des petits bouts de tranches de vie, mais c'est tellement bien raconté, on a beaucoup d'empathie pour le personnage, donc j'ai très très hâte de lire ça.
Wow, c'est déjà un gros morceau d'entrée
de jeu. Déjà, on a vu que le livre était dans la sélection du Festival d'Angoulême, qui s'en vient à grands pas.
Effectivement. Ensuite?
Ensuite, une nouveauté, j'en parle souvent de cette sélection-là, c'est la collection de Futuropolis, et en collaboration avec le Musée du Louvre, dis-je. Donc, au moins une fois par année, il y a un auteur qui se promène dans le Louvre et qui fait un album lié au musée et à les œuvres qui y sont.
Oui.
Et cette fois-ci, c'est Florent Chavouet qui s'y attaque. Donc, Florent Chavouet, qui est un auteur pas très connu, malgré qu'il ait gagné le prix du meilleur polar au dernier Angoulême avec un livre qui s'appelait Petite coupure à Chionougui.
Mais d'ailleurs, allez acheter ce livre-là, allez lire ça, c'est formidable.
C'est vraiment formidable et qui, auparavant, avait fait plusieurs carnets de voyage au Japon et tout. Ce sont des livres magnifiques. C'est vraiment un style là, au crayon de couleur vraiment charmant qui plaît à vraiment tout le monde. Donc, c'est vraiment un régal de le voir s'attaquer au Louvre. Le livre s'appelle tout simplement L'île Louvre.
Ah,
donc,
L'île Louvre.
C'est ça.
Et ensuite, une dernière nouveauté.
Une dernière nouveauté, c'est un gros bouquin qui s'appelle Dérangé. Aux éditions de La Pastèque, c'est par un auteur qui s'appelle Violaine Leroy.
Oui.
Elle avait déjà fait paraître un livre à La Pastèque il y a plusieurs années, un livre dont le souvenir m'est plutôt anecdotique, si j'y repense. Par contre, là, c'est vraiment un gros bouquin, ça a l'air vraiment tout autre chose, très élaboré, et les gens à La Pastèque m'ont fait savoir, quand ils m'en ont parlé, que c'était, à leur avis, le meilleur album qu'ils avaient jamais publié.
Très déstabilisant quand on regarde ça. On ne sait pas trop à quoi on a affaire,
ouais.
Mais franchement, moi, je ne me suis pas encore plongé dedans, mais j'ai très hâte.
Ben moi aussi, parce que franchement, justement, la Pastèque a 15 ans derrière la cravate et des très, très bons albums, ne serait-ce que La Pointe de l'Iceberg, tous les Pauls qui sont très bons. Alors, de se faire dire que c'est le meilleur album qu'ils ont sorti à date, on prête attention quand même.
Effectivement, ben c'est trois belles nouveautés. Laurent, merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine.
Oui, et toute la saison, je l'espère.
C'est fantastique. Compte sur nous, on va te harceler au téléphone toute l'année encore.
Quand tu veux.
Salut Laurent.
Au revoir.
C'était Laurent Boutin en direct de la librairie Planète BD, située au 3883 rue Saint-Denis à Montréal. C'est ce qui met fin à l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à nouveau à répondre à notre question de la semaine. Grand prix de la ville d'Angoulême 2016, tout genre confondu, pour qui voteriez-vous? Répondez sur Facebook ou Twitter avec le mot clic question BV. Merci beaucoup à Ami Vaillancourt. Merci beaucoup Réal Godbout. Et merci à vous d'être là à chaque semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre BD Filmant Vôtre. Allez, au revoir.
Découvrir les artistes qui font bouillonner la musique, le théâtre, les arts visuels, la littérature, le cinéma et tous les autres domaines artistiques à Montréal, écoutez Catherine et Laurent.
Lundi, on reçoit Richard Brouillette, réalisateur du documentaire Oncle Bernard, l'anti-leçon d'économie, la commissaire déléguée Florence Agathe-Dubé-Moreau de l'exposition Do It Montréal et l'essai Le quartier des spectacles et le chantier de l'imaginaire montréalais.
Ici Anne-Marie Kerouac, Catherine et Laurent, c'est un rendez-vous culturel à CIBL du lundi au vendredi de 16h à 18h.
Bonjour, je m'appelle François Pérusse et il y en a beaucoup qui savent que je suis un gars de radio communautaire et si j'aide CIBL, c'est parce que CIBL nous aide beaucoup. Choix musical qu'on n'aura pas ailleurs, un dynamisme qu'on peut pas trouver ailleurs. La radio communautaire, c'est essentiel. Alors, aidez donc vous aussi, CIBL, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Bye-bye.
Au gré de la fantaisie d'Alain Pinault. Les dimanches, 18h, offrez-vous 90 minutes de la meilleure musique classique. Écoutez les meilleures œuvres par les meilleurs orchestres autour d'un thème.
Cette semaine, on continue la visite du Salon des Oubliés avec Krauss, Gossec, Chevalier de Saint-Georges, Wagenseil et Hummel.
Alain Pinault vous donne rendez-vous au gré de la fantaisie tous les dimanches, 18h, à CIBL 101.5 Montréal.
Notre muse avec Yves Bernard.
Musique savante, traditionnelle, métissée, nomade et immigrante d'ici et d'ailleurs, les mardis à 19h.
En direct sur le web et sur Illico, chaîne 574, nos chroniqueurs sont branchés sur tout ce qui se passe en ville. Films, expositions, événements culturels, restez vous aussi bien branchés.
J'aide CIBL. Visitez
avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
Montréal.